C'est l'heure du journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Hervé, bonjour à tous. Il dit être visé par un mandat d'arrêt. Le président de Bolivie, Evo Morales, crie au coup d'État. Il a démissionné hier après 3 semaines de manifestations monstres dans le pays. Nous irons en Bolivie dans un instant.
Direction aussi le Chili, où là, la contestation populaire se poursuit. Hier soir, le gouvernement a finalement accepté de modifier la constitution. C'était l'une des revendications des manifestants.
Un nouveau casse-tête politique débute en Espagne. Aucune coalition ne se dégage après les législatives anticipées d'hier. Le parti d'extrême droite Vox et troisième. Retour sur la soirée à Madrid dans ce journal.
Nous vous expliquerons ensuite pourquoi Marine Le Pen commémore ce lundi l'armistice de 1918 dans le Pas-de-Calais, un choix lié aux prochaines municipales.
Et en ce 101e anniversaire de l'armistice, Emmanuel Macron en profite aussi pour inaugurer aujourd'hui un monument dédié aux soldats morts en opération extérieure, une première depuis 1963. Après cette édition, nous retrouverons Frédéric Seyss pour le billet politique. Il se demandera ce matin s'il reste un espace pour le parti Les Républicains. Les 3 semaines de contestation populaire l'ont finalement fait plier. Les démissions en cascade de ses ministres également. Le président de Bolivie démissionne, chassé par la rue, l'opposition et l'armée. Evo Morales, qui souhaite partir la tête haute, dénonce un mandat d'arrêt illégal à son encontre. Au pouvoir depuis 13 ans, il était le plus ancien des présidents d'Amérique latine, accusé aujourd'hui de fraude électorale massive. Bonjour Alice Campagnol.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante à La Paz en Bolivie. Alice, qu'est-ce qui a précipité cette démission ?
Eh bien, les choses se sont accélérées hier. Tout d'abord, les experts de l'Organisation des États américains ont confirmé la fraude électorale. Et si Evo Morales a proposé l'organisation de nouvelles élections, ça n'a pas suffi aux manifestants qui réclamaient la démission depuis plusieurs jours déjà. Mais dans la journée, les défections se sont multipliées. Peu à peu, les soutiens du président lui ont tourné le dos, ce qui a dû précipiter sa décision de quitter le pouvoir, comme le fait que l'armée et la police lui aient demandé de démissionner. Et dans les heures qui ont suivi, plusieurs dirigeants latino-américains lui ont exprimé leur soutien. Nicolas Maduro au Venezuela, Miguel Díaz-Canel à Cuba, entre autres, et Andrés Manuel López Obrador au Mexique a proposé l'asile aux dirigeants boliviens.
Et pendant ce temps, Alice, sur place, que se passe-t-il à La Paz ?
Eh bien, c'est la confusion. On ne sait pas où se trouve Evo Morales. Et s'il a annoncé être sous le coup d'un mandat d'arrêt, cela a été démenti par le chef de la police. Et à La Paz, alors que dans les autres villes du pays, l'ambiance est à la fête pour les citoyens opposés à Evo Morales, eh bien ici, ce sont des scènes de chaos auxquelles on assiste. Des pillards se sont emparés des rues, profitant du fait que plus personne ne dirige le pays depuis quelques heures. On a vu des groupes entrer dans des magasins, ils volaient toutes les marchandises. Des maisons d'opposants ont été incendiées et pillées. Et des affrontements très violents ont eu lieu entre opposants et partisans d'Evo Morales, ces derniers étant très en colère du départ de leurs dirigeants. Et la police étant débordée, il semblerait que l'armée ait commencé à descendre dans les rues pour essayer de faire revenir le calme.
Merci Alice, Alice Campagnol en Bolivie ce matin pour France Culture. Lui a exclu de démissionner, malgré là aussi la pression de la rue. Au sud-ouest de la Bolivie, au Chili, les manifestations se poursuivent contre le gouvernement de droite de Sebastián Piñera. Le Premier ministre a finalement accepté hier tout de même de modifier la constitution du pays, comme le demandent les protestataires. Ils se réunissent d'ailleurs depuis un mois maintenant sur des places publiques ou dans des associations locales pour lister leurs revendications. Dans la banlieue de Santiago, Justine Fontaine s'est rendue pour France Culture dans une assemblée de quartier.
Ce soir-là, une trentaine de personnes de tous les âges sont réunies dans les locaux de cette association de voisins à Maipú, une banlieue de classe moyenne. Éducation, retraite, santé, presque tous les sujets sont abordés. Et une solution revient dans la bouche de la plupart des participants, changer de constitution. Luis Guerrera habite à quelques minutes d'ici.
Je pense qu'il faut que ce soit le peuple, les gens qui fassent ce changement de constitution, dit-il. L'actuelle constitution a été adoptée en pleine dictature en 1980, mais aujourd'hui les jeunes chiliens veulent se débarrasser de cet héritage et de la peur que faisait régner le régime de Pinochet vis-à-vis de la participation en politique. C'est ce que dit un voisin d'une vingtaine d'années. Pendant de longues années, de très longues années, on a interdit aux générations plus âgées que la mienne de faire de la politique dans ce pays, rappelle-t-il. En l'espace de 3 semaines à peine, au moins 15 000 Chiliens ont participé à ces assemblées citoyennes organisées spontanément à travers tout le pays. De quoi émouvoir ce voisin de 34 ans dont la mère doit continuer de travailler alors qu'elle a déjà atteint l'âge de la retraite. L'éducation civique que nous sommes en train de faire entre nous maintenant, c'est ça le plus important parce que par exemple, ma mère n'aura pas une retraite digne de ce nom et moi non plus probablement malgré tous les changements que nous obtiendrons. Mais nos enfants, si, affirme-t-il. Le président Sébastien Piñera a longtemps été opposé à l'abandon de la constitution actuelle. Mais face à ce mouvement, le gouvernement a annoncé hier soir qu'il était désormais ouvert à la rédaction d'une nouvelle constitution qui devra ensuite être validée par les Chiliens lors d'un référendum.
À Hong Kong, il n'est pas du tout question de constitution ou d'assemblée de quartier. Non, l'heure est toujours aux affrontements entre forces de l'ordre et militants pro-démocratie. Ce matin, un policier a tiré 3 fois sur des jeunes qui tentaient de bloquer un carrefour. Un manifestant serait dans un état critique alors qu'une nouvelle grève débute ce lundi à Hong Kong. Notons par ailleurs qu'au Liban, des milliers de manifestants se sont encore mobilisés hier un peu partout dans le pays. Et qu'en Irak, là, les rassemblements ont une nouvelle fois été durement réprimés, faisant des dizaines de blessés. L'Espagne plonge un peu plus dans l'incertitude politique. Après les élections législatives anticipées d'hier, les quatrièmes en 4 ans, le parti socialiste de Pedro Sanchez arrive en tête devant les conservateurs, mais sans majorité absolue. Et revoilà donc le jeu d'alliance. Il sera d'autant plus important cette fois que Vox, le parti d'extrême droite, devient la 3e force politique du pays. 6 mois, faut-il le rappeler, après son entrée au Parlement. Renforcé par la crise en Catalogne, Vox totalise 15% des suffrages. Marie-Hélène Ballestero était à son quartier général à Madrid hier soir.
Ambiance euphorique et festive hier soir au siège de Vox à Madrid. En moins d'un an, le parti d'extrême droite est devenu la 3e force politique en Espagne, alors qu'il y a 2 ans, pratiquement personne n'avait entendu parler d'eux. Émue aux larmes, Isabelle n'hésite pas à partager sa joie.
Que veux-tu que je te dise ? On est super émus, c'est ma plus grande joie, tu ne peux pas imaginer. Enfin, on commence à voir qu'il y a de l'avenir pour nos enfants. On est sur le point d'en finir avec cette gauche de faux humanistes, d'hypocrites. Non mais regarde, mes mains tremblent, mon âme tremble, quelle joie.
Isabelle n'est pas venue seule hier au siège de Vox. À 18 ans, son fils Juan a aussi fait le déplacement. C'est la première fois qu'il votait et il n'a pas hésité.
Je partage les mêmes valeurs et les mêmes principes que Vox. Pour moi, il représente surtout l'honneur, l'amour de la patrie, le respect des uns envers les autres, le respect de l'ordre et de la loi et l'amour des Espagnols. Car en définitive, c'est ça qui nous unit.
En définitive, pour ses électeurs, Vox incarne des valeurs fortes et positives, loin des préjugés. Álvaro est catégorique.
Nous ne sommes ni des fachos, ni des radicaux, ni des homophobes, ni des racistes. On veut seulement le meilleur pour notre pays.
Et ce qu'il y a de mieux pour tous ses électeurs, c'est Vox, le parti d'extrême droite qui n'a pas remporté ses élections, mais qui a doublé ses sièges au Parlement espagnol en 6 mois.
C'était Marie-Hélène Ballestero à Madrid pour France Culture. L'Iran veut prouver sa puissance en exhibant ses ressources. Son président Hassan Rouhani annonce ainsi la découverte d'un nouveau gisement de pétrole. Les réserves seraient estimées à 22 milliards de barils. Difficile à écouler toutefois en raison des sanctions américaines qui visent l'Iran. Et dans le même temps, Téhéran relance par ailleurs l'enrichissement d'uranium. Ce lundi, l'Agence internationale de l'énergie atomique doit justement publier son dernier rapport sur le nucléaire iranien. Pour sauver ce qui reste de l'accord de Vienne sur le nucléaire, la Russie maintient ses engagements. Notons qu'hier, elle a inauguré une nouvelle phase de travaux pour construire ce qui sera la seule centrale électrique d'Iran. La Russie qui traîne en revanche sur un autre partenariat, le transit du gaz via l'Ukraine. Les négociations avec le nouveau président ukrainien s'éternisent 6 mois après l'arrivée au pouvoir de Volodymyr Zelensky. Bonjour Claude Bruyot.
Bonjour.
L'ancien acteur et humoriste devenu président d'Ukraine a tout de même, Claude, réussi à lancer quelques grands chantiers. On peut citer celui de la lutte contre la corruption qui était l'une des principales promesses de campagne de Zelensky, Claude.
Oui, et si l'on voit des affaires nouvelles émerger, c'est le signe justement que la lutte fonctionne. Pour les sympathisants de Volodymyr Zelensky, la promesse de leur champion de lutter donc ardemment contre la corruption dans le pays est en voie d'être tenue. 2 éléments parmi d'autres peuvent servir d'indicateurs. Le premier tient au fait que les administrations nationales et régionales anticorruption ont désormais la possibilité de diligenter elles-mêmes, par exemple, des écoutes téléphoniques sans avoir besoin de passer par le SBU, le service de sécurité ukrainien. 2e point important, la sélection des juges anticorruption s'effectue désormais par une commission indépendante, composée à la fois par des représentants d'organismes internationaux et par des représentants de la société civile ukrainienne qui ont toujours dénoncé ce fléau.
Et pour ce premier bilan de Volodymyr Zelensky, 6 mois après son accession au pouvoir, Claude, on peut aussi citer l'affaire du coup de téléphone entre le président ukrainien et Donald Trump. C'était cet été, un coup de téléphone qui a déclenché la procédure de destitution aux États-Unis. Comment cela a-t-il été perçu en Ukraine ?
Alors, l'affaire de ce fameux coup de téléphone entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump en juillet, donc, n'a pas bouleversé les Ukrainiens, au-delà de l'opposition présidentielle, bien sûr, qui a essayé d'en tirer parti pour souligner les risques d'avoir choisi un président inexpérimenté. Mais dans le grand public, on ne considère pas comme désastreux le fait de dire que le procureur général sera l'un des hommes du président. Là où le doute, en revanche, est plus grand, c'est sur la pression qui peut s'exercer sur la direction du pays en provenance d'outre-Atlantique, notamment dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, et contre laquelle il serait difficile de résister parce que des aides financières colossales sont en jeu. En résumé, la crainte que le pouvoir à Kiev devienne en quelque sorte instrumentalisé par les luttes qui se jouent notamment du côté de Washington.
Merci beaucoup Claude Bruyot en direct ce matin. L'actualité ukrainienne, l'actualité russe également. Nous y reviendrons avec le réalisateur ukrainien Oleg Sentsov. Entretien exclusif ce matin sur France Culture. Oleg Sentsov que nous retrouvons après ce journal à Kiev aux côtés de Guillaume Erner.
Et avant cela, Clara Lecoq-Réal à 8h11 sur France Culture. C'est la suite de votre journal avec Marine Le Pen qui sera à Carvin aujourd'hui pour les cérémonies du 11 novembre.
Oui, Carvin, c'est une commune de 17 000 habitants dans le Pas-de-Calais, dans la circonscription d'Hénin-Beaumont. Et la présidente du Rassemblement National sera donc sur ces terres à 4 mois des municipales. Elle profite également de ce déplacement pour illustrer la stratégie de l'irrigation de son parti. Comprenez, s'appuyer sur des villes du Rassemblement National pour donner envie aux habitants des villes voisines de voter RN. Explication d'Anne Fauquemberg.
Pour accentuer la présence du RN dans le bassin minier, territoire d'1 200 000 habitants où tous les indicateurs sociaux sont au rouge, Marine Le Pen mise sur 4 villes, mais aussi la jeunesse. Le benjamin de l'Assemblée nationale, Ludovic Pajot, 25 ans, tentera ainsi de conquérir Bruay-la-Buissière, tandis qu'à Vingles et Bully-les-Mines, 2 anciens militants LR, Thomas Morel, 22 ans, et Caroline Meloni, la trentaine, se lancent en tête de liste. Quant à Carvin, où la présidente RN se rendra ce matin, Arnaud De Rignier, un fonctionnaire de 23 ans, se présente face au maire socialiste en place depuis 3 mandats. Arnaud De Rignier qui fait une campagne classique sur le thème de la sécurité.
Il y a une attente forte des habitants parce que si vous voulez, on est dans une ville qui par exemple n'a pas de police municipale, n'a pas de système de vidéoprotection. Alors ce qui joue, c'est qu'à Hénin-Beaumont, il y a un système de protection qui est en train de se développer, il y a un bilan qui est là. Les habitants des villes alentours, et notamment les Carvinois, se rendent compte de la différence entre la gestion municipale d'Hénin-Beaumont et celle de Carvin. Ils pensent évidemment que ça pourrait largement s'améliorer si nous avions une gestion municipale Rassemblement National.
Le RN qui organisera à Paris le 8 décembre une convention municipale. On connaîtra peut-être le nombre des candidats investis, toujours tenus au secret. Le parti qui fait aussi preuve de prudence après l'épisode strasbourgeois. Un candidat brièvement investi et qui a finalement jeté l'éponge. Les réseaux sociaux ayant eu raison de son passé violent et raciste.
13 500 personnes de la gare du Nord jusqu'à la place de la Nation à Paris. C'était hier, une marche contre l'islamophobie a eu lieu. Marche controversée qui a divisé la gauche. Jean-Luc Mélenchon ou Yann Brossat du Parti communiste étaient présents. Le PS ou François Ruffin, député La France insoumise, ne l'était pas. En revanche, l'un des organisateurs de cette marche, le collectif Islamophobie en France, est accusé d'être proche des frères musulmans. Après avoir rendu hommage vendredi en toute discrétion aux agents des services secrets morts en mission, Emmanuel Macron inaugurera cet après-midi un monument dédié aux soldats morts en opérations extérieures. Il se trouvera ce monument à Paris, dans le parc André Citroën du 15e arrondissement. Un hommage longtemps attendu, Nathalie Hernandez.
Depuis la guerre d'Algérie, aucun mémorial ne leur était dédié. Cette 4e génération du feu, comme l'appelle l'armée, a pourtant représenté des centaines de milliers de soldats. C'est en 2011 qu'un projet a finalement été retenu et une première pierre posée en 2017. Le monument est composé de 2 éléments, une sculpture réalisée par Stéphane Vigny. L'artiste a eu très vite l'idée de dessiner 6 soldats de taille humaine portant un cercueil invisible.
Cette sculpture représente 5 hommes et une femme. Ils dessinent avec leurs mains la forme du cercueil, mais il n'est pas présent en fait, donc c'est un vide. Symboliquement, pour moi, c'était représenter l'absence, le manque, et c'était la meilleure manière de le traduire.
Afin d'honorer les disparus, mais aussi de permettre aux familles de se recueillir, un mur entourera la sculpture. Il portera les noms de ces 549 morts pour la France, dont celui du mari de Céline, mort en 2003 en Côte d'Ivoire. Un symbole essentiel pour cette veuve et sa fille.
C'est bien, c'est une reconnaissance quand même de voir les noms donc de ces hommes qui ont payé de leur vie pour que les Français soient en sécurité. Moi, je sais que ma fille, ça lui fait plaisir qu'il y ait ce monument-là.
Un regret toutefois pour Céline et sa fille, qui vivent dans le sud-ouest, avoir été prévenus trop tard pour venir à Paris pour l'inauguration.
Et avant cela, ce matin, notons qu'Emmanuel Macron présidera d'abord la cérémonie de commémoration du 101e anniversaire de l'armistice de 1918 à l'Arc de Triomphe. Comme de tradition, il ravivera la flamme sur la tombe du soldat inconnu. 101 ans après, la mort du soldat est devenue intolérable. C'est aussi un article à retrouver sur notre site en une. franceculture.fr. Le temps de ce lundi, il sera encore marqué par beaucoup de grisailles et de la pluie des Pyrénées jusqu'aux frontières belges avec des températures très très fraîches. 3 degrés ce matin à Strasbourg, 7 à Lille, 8 degrés à Paris et Lyon, 14, pas plus à Marseille.